Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional. Villefranche-sur-Saône, développement durable, les enjeux de demain. En compagnie d'Olivier Mandon, adjoint au maire développement durable pour la ville. Réchauffement climatique, les conséquences sur les activités agricoles du Beaujolais. Un bilan avec Pascal Goutenoir, éleveur laitier à Vindry-sur-Turdine et président de la FDSEA 69. Et enfin, un point sur les vendanges 2022 et son millésime. Jean-Marc Lafont, viticulteur à Lantigné et président des crus du Beaujolais ODG, est avec nous. Calade, le journal. Et si l'argent d'une poignée de milliardaires pouvait éradiquer la faim dans le monde ? C'est ce que le directeur du programme alimentaire mondial, PAM, des Nations Unies, a interpellé sur CNN. En novembre dernier, les deux plus grandes fortunes mondiales, le PDG de Tesla, Elon Musk, et le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, afin qu'ils participent à en finir avec la famine. 6 milliards de dollars pourraient aider 42 millions de personnes qui vont littéralement mourir si personne ne leur vient en aide, a fait valoir le patron de l'organisation onusienne en novembre 2021. Une donation qui correspondrait à seulement 2% de la fortune d'Elon Musk, qui détient actuellement 306,5 milliards de dollars. On ne résoudra pas la faim dans le monde avec ces milliards de dollars, nous dit Sylvie Brunel, géographe. L'argent ne suffit pas à résoudre le désintérêt de certains dirigeants pour leur population, nous confie l'économiste, ancienne présidente d'Action contre la faim et professeure à Sorbonne Université. Résoudre la faim dans le monde est en effet plus compliqué que de réussir à faire mettre 6 milliards de dollars sur la table à Elon Musk. La faim est d'abord une question géopolitique avant d'être un problème logistique. Que le patron du PAM, le Programme Alimentaire Mondial, soit dans son rôle en appelant à la générosité des puissants, alors que la faim a frappé 100 millions de personnes supplémentaires pendant la pandémie, c'est une évidence. La faim, elle, continue de tenailler chroniquement près d'un milliard de personnes. Sous la forme de cette faim silencieuse qu'est la malnutrition, conséquence de la pauvreté, du manque de moyens techniques dans l'agriculture notamment, les paysans sont les principaux touchés de l'ignorance. Première victime de la faim, les enfants souffrent ainsi des erreurs alimentaires commises par leur mère, faute d'accès à l'éducation, comme le sevrage précoce et brutal, ou la sous-alimentation des petites filles en Asie du Sud par rapport à leurs frères. Les paysans sont des majorités silencieuses et dominées, dont le pouvoir de contestation limité est toujours sévèrement réprimé. Les États préfèrent alimenter les villes que les campagnes et privilégier les citadins, toujours susceptible de descendre dans la rue pour manifester. Et oui, le prix de la nourriture conditionne la paix sociale et 150 pays l'importent de l'étranger au lieu de sécuriser leur campagne. Le clan des pays exportateurs de céréales est, lui, très fermé. La France en fait toujours partie, mais pour combien de temps ? Villefranche-sur-Saône, développement durable, les enjeux de demain. Transition énergétique, plan arbre et carbone, tri sélectif, biodéchets, compostage, cours d'école végétalisés, autant d'opérations que doivent mener les collectivités. Le point avec Olivier Mandon, adjoint au maire, développement durable à la ville de Villefranche-sur-Saône. On l'écoute.
Le travail dans les écoles, il y a une double action. Il y a à la fois la végétalisation, mais aussi la désimperméabilisation des sols. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye que dans l'ensemble des écoles de Villefranche, là je parle Villefranche, dans l'ensemble des écoles de Villefranche, toutes les écoles, progressivement, d'ici la fin de ce mandat, auront été totalement transformées. Donc, je n'ai pas encore les chiffres exacts, mais on communiquera. Je peux vous garantir qu'en surface de désimperméabilisation, c'est colossal. C'est-à-dire que c'est véritablement une approche. Aujourd'hui, vous aviez des écoles qui étaient faites avec un espèce de un goudron, tout simplement, qui fait que c'est totalement imperméable. Non seulement c'est un gros avantage, c'est que maintenant on a des pluies qui sont véritablement intenses, donc ça permet que les sols absorbent, alors que jusque-là, ils n'absorbaient pas. Donc ça partait sur des regards qui, en fait, étaient souvent saturés. Alors la complexité, c'est qu'il faut doublement avoir des sols absorbants, puisque si vous mettez plus de végétaux, vous aurez des feuilles. Donc si les sols ne sont pas absorbants, les endroits qui sont récupérateurs d'eau peuvent être saturés. Donc c'est tout un lien. La complexité, c'est à la fois végétaliser suffisamment, mais pas trop, parce qu'après, vous avez une problématique au niveau des envahissements d'oiseaux. On a des sujets qui sont un peu récurrents en ce moment sur Villefranche. C'est colossal sur certains oiseaux, donc on fait une campagne d'effarouchement en ce moment. On essaie de trouver des solutions, mais j'ai tout cet équilibre à trouver entre planter, monsieur le maire a annoncé 1000 arbres, on sera plutôt près de 2000, donc on devrait passer de 5500 arbres quand je compte les parcs, les rues, et les écoles.
Afin de simplement amener de la fraîcheur. Hein,
de la fraîcheur, tout simplement. Mais vous imaginez, c'est planter 2000 arbres à peu près. Donc c'est colossal parce que 2000 arbres, c'est de l'entretien, c'est d'une gestion, c'est aussi des espèces qui vont arriver, qu'on devra gérer, qui seront compliquées. Vous savez, j'ai presque plus de plaintes aujourd'hui de personnes qui se plaignent des oiseaux, qui font des fientes sur les voitures, qui font du bruit, que de gens qui se plaignent à la fois qu'il faut végétaliser. Aujourd'hui, j'ai plus de plaintes par rapport à ça. Donc c'est compliqué, mais il faut trouver cet équilibre. On va le trouver, on continue, on trouve des solutions, et des solutions pour toutes les espèces, donc de les préserver tout en les maintenant à un certain niveau pour pas que ça soit trop, que ça devienne nuisible. C'est ça l'idée.
Et les autres donc thématiques, on peut dire, c'est celle de la l'économie d'énergie, hein, en trouvant aussi un équilibre.
Alors c'est ça, on doit trouver un équilibre. Mais vous savez, c'est véritablement, si on prend, c'est les paliers du développement durable, hein, parce qu'en fait, c'est de l'écologie, c'est la finance, vous êtes d'accord, et indirectement du social, puisque ça touche l'humain. Donc du coup, c'est véritablement, là, on se doit maintenant de pas faire de l'écologie, mais de faire du durable. Avec les trois piliers. C'est ça qui est compliqué. Donc oui, il y a une complexité, il va falloir diminuer nos consommations, à la fois ville, il y a un gros travail qui est engagé, puisqu'on vient au niveau de la ville et au niveau de l'agglomération, il y a des économes de flux qui ont été engagés, qui vont permettre de surveiller les bâtiments les plus énergivores, et de compenser soit en isolant les bâtiments, soit en travaillant avec d'autres méthodes. Et aujourd'hui, si on ne maîtrise pas, ça va être ingérable. On ne pourra plus, financièrement, ça sera pas viable.
C'était Olivier Mandon, adjoint au maire développement durable à la ville de Villefranche-sur-Saône. Avec lui, un point sur les enjeux de demain concernant le développement durable dans les politiques prochaines. Réchauffement climatique, les conséquences sur les activités agricoles du Beaujolais. Le bilan avec Pascal Gouttenoir, il est éleveur laitier à Vindry-sur-Turdine et président de la FDSEA 69.
Et ben en fait, cette année 2022 va rester marquée pour toute l'agriculture parce que, et habituellement, on a toujours un petit peu de sécheresse. En juillet, août, on est habitué à avoir chaud. Mais là, la sécheresse a démarré très, très tôt au printemps, avec un mois de juin très, très chaud, et donc une sécheresse précoce. Et en fait, qui dure dans le temps avec un peu d'eau début juillet, un petit peu d'eau au mois d'août, mais qui n'a vraiment pas suffi à combler cette sécheresse, on va dire, intense et longue sur la durée. Quoi. Comme je le disais, la sécheresse a démarré très très tôt, ça a pénalisé toutes les productions. Ça ne reste pas que les éleveurs. Effectivement, au printemps, donc, on a eu l'affouragement en herbe qui a été de 50%, donc ça fait du stock en moins. La culture de maïs qui a été compliquée à mettre en place, ce qui sert à alimenter les vaches pour les nourrir, que ce soit du lait ou de la viande. Les céréaliers qui ont eu des rendements très très hétérogènes sur la région et à des endroits catastrophiques. Évidemment, la culture maraîchère qui a été pénalisée par les coups de chaud, les chaleurs. L'arboriculture qui a été aussi touchée au-delà de la drosophile qui les a pénalisés, a touché les arbres fruitiers qui n'étaient pas irrigués. Et puis les viticulteurs qui sont en pleine vendange sont pénalisés. Alors, il faut une récolte de qualité, mais pas du tout en quantité, quoi.
Alors, vous posez les questions, bien évidemment, comment on peut arriver à remédier à tout cela, puisque d'ailleurs, on prévoit une répercussion, en tous les cas, alimentaire sur tous les consommateurs, finalement. Que nous sommes.
Oui, donc en fait ça nous fait poser beaucoup de questions. Alors on a le très court terme, c'est-à-dire les gens qui ont des problèmes pour abreuver leurs vaches, ça c'est du tout de suite concret, qui sont obligés de mettre l'eau du réseau pour abreuver les vaches parce que les sources ou les étangs n'ont plus d'eau, donc ça c'est la problématique première, quoi. Et puis sur le futur, effectivement, on parle de réchauffement climatique, on est en plein dedans. On est vraiment en plein dedans et je pense qu'il faut qu'on se serve de cette canicule pour passer outre le tabou de l'irrigation, parce que l'irrigation reste un tabou, sauf que si on veut que l'agriculture produise pour la population, il faut qu'on ait un accès à l'eau pour pouvoir irriguer comme nos pays voisins, quoi.
Alors effectivement, le frein à l'irrigation, c'est quoi finalement? Un juste équilibrage, en fait, c'est ça,
en quelque sorte. En fait, quand je disais que c'était un sujet tabou, quand on irrigue nos maïs, on est traité de voleur d'eau. Alors que dans la philosophie, on stocke du surplus d'eau l'hiver qu'on remet dans la nature l'été. Donc en fait, si on réfléchit bien, on n'est pas plus voleur d'eau. L'hiver, quand il y a des surplus d'eau, que l'eau elle fait que passer, qu'on la retrouve dans la Méditerranée, on la stocke chez nous et on la remet dans notre nature chez nous. Et en fait, on ne prend pas l'eau aux autres, c'est pas vrai. On prend le surplus d'eau et toutes les retenues où elles sont faites, on doit redistribuer un débit d'eau aux rivières derrière. Donc en fait, il y a un équilibrage, il y a un cahier des charges. Donc en fait, c'est la communication. On ne vole pas l'eau aux autres.
Aujourd'hui, vous irriguez pas le maïs.
Alors, si, il y a des retenues sur le département. Alors, moi, j'ai deux retenues collinéaires et j'en ai une que j'arrose normalement l'herbe pour mes vaches et puis l'autre le maïs. Celle que j'arrose l'herbe, bah, elle est sèche. Je l'ai jamais vue sèche depuis sa construction et j'arrose les maïs, ce qui va me permettre de ne pas être obligé d'acheter à l'extérieur et j'aurai du fourrage moins en quantité, mais toujours en qualité grâce à l'irrigation, quoi.
Est-ce qu'on peut compter sur l'automne où on sait déjà que l'automne ne sera peut-être pas favorable, par exemple, hein, c'est compliqué.
Alors, effectivement, on comptait beaucoup sur une arrière-saison plutôt clémente pour au moins refaire un peu de stock. Et j'ai bien peur qu'on n'en prenne pas du tout le chemin, quoi. Parce qu'il ne suffirait d'avoir un orage ou deux maintenant, on pourrait faire deux, trois cultures en dérobé. Ça permettrait de refaire du stock, parce que la problématique, les éleveurs, ils donnent déjà le stock d'hiver. Là.
Pascal Goutenoir, éleveur laitier à Vindry-sur-Turdine et président de la FDSEA 69, nous dressait un point sécheresse du territoire. Vendange, le point sur cette récolte 2022 en Beaujolais, son millésime. Avec nous, Jean-Marc Lafont, viticulteur à Lantigné et président des crus du Beaujolais ODG, l'organisme de défense et de gestion des crus.
Écoutez, pour l'instant, les premières impressions sont très positives en termes de qualité. Ce millésime est magnifique. Bon, tout le monde a constaté le bel été, chaud, voire caniculaire. Et c'est un peu le deuxième point qui est un petit peu plus négatif. C'est effectivement les rendements qui seront relativement faibles au niveau de notre vignoble, puisque un certain nombre de vignobles très bien exposés ont subi la sécheresse et ont eu des pertes de volume à la récolte.
Des plus chanceux et d'autres des plus malheureux, c'est ça ce que vous allez me
dire ? Oui, c'est ce qu'on appelle un peu dans notre métier une année un peu jalouse, c'est-à-dire les secteurs un peu de piémont, donc de sol un peu plus fondé, ont globalement bien réussi leur année. D'autres, sur des secteurs plus granitiques, un peu plus exposés plein sud, auront eux des rendements qui décrochent depuis début août avec des baisses significatives, puisqu'on parle de rendement, on va dire, entre 25 et 50 hectolitres à l'hectare en fonction justement des expositions et des positions du vignoble.
Alors une baisse en quantité, ça implique quoi en quelque sorte ?
Écoutez,
perte de marché ?
Une baisse en quantité, c'est toujours un peu délicat dans la mesure où notre vignoble a actuellement une belle dynamique commerciale et que nous avons besoin de volume après une récolte 2021 qui était historiquement faible. Donc là, on a effectivement, on espère, pour l'instant, on a qu'une vision partielle des rendements. On espère qu'on fera un peu plus de vin qu'en 2021, mais pour l'instant, on n'est pas totalement rassuré sur ce plan-là.
On va dire que ça fait une dizaine peut-être de décennies où on voit effectivement un réchauffement climatique pour l'agriculture et évidemment pour la viticulture. Est-ce que l'on s'adapte petit à petit ?
Effectivement, le réchauffement climatique, nous on le constate, oui, même depuis une quinzaine d'années, puisque on voit que les vendanges chaque année sont de plus en plus précoces en moyenne. Là, c'est un fait indéniable. Après, comment on s'adapte ? Sur toute la partie recherche et développement, on essaye de prendre des plants de gamay qui sont un peu plus tardifs sur les nouvelles plantations. Vous savez que notre vignoble est actuellement en cours de restructuration pour être encore plus écologique, avoir une capacité à la fois de mécanisation mais aussi de travail du sol sous les rangs qui soit beaucoup plus adapté à des méthodes et à des conduites modernes. Donc tout ça, on doit l'intégrer aujourd'hui puisque quand on réfléchit à ça, on le réfléchit pour les 30, 40, 50 prochaines années.
C'était le Point Vendange 2022 en Beaujolais en compagnie de Jean-Marc Lafont, viticulteur à Lantigné et président des crus du Beaujolais ODG. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.